Voilà, nous sommes le 12 octobre et c'est le cours L'insoutenable légèreté de l'homme, lundi 12 octobre, le chapitre 2, la liberté, première partie. Vous voyez que sur votre feuille de route, il y a une introduction historique qui ne sera pas trop longue, mais quand même, qui mettra un petit peu le tableau d'arrière-fond. Ensuite, on constate que la liberté est proclamée partout, et pourtant méconnue à un niveau pratique, mais aussi à un niveau théorique. Il y a deux approches de la liberté, fondamentalement, l'une qui est positive, l'autre qui est négative, et on va se demander comment réconcilier ces deux approches. Alors ici, je m'appuie sur une réflexion du Père Chapelle, qui lui-même, comme vous le voyez en dessous, la genèse de l'acte libre, eh bien, prend des choses chez saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique. Donc vous voyez, Somme théologique, prima segunde. C'est la première partie de la seconde partie. Prima segunde, question 12, puis 13, 14, 15, 17, puis 11. Il y a une petite inversion, là, comme vous voyez. Le Père Chapelle s'inspire de saint Thomas d'Aquin, oui, mais s'inspire surtout, me semble-t-il, des exercices spirituels de saint Ignace. Des quatre semaines, les quatre temps de la liberté vont en parallèle avec les quatre semaines des exercices spirituels. Mais ça, je vous expliquerai la prochaine fois, parce que cette genèse de l'acte libre, nous allons sans doute l'aborder aujourd'hui, j'espère quand même, pendant quelques minutes, mais nous allons l'approfondir la prochaine fois. Et c'est là vraiment le cœur de l'idée de la liberté. Hein? Une liberté non pas définie comme ça, en une fois, mais une liberté qui s'articule dans un mouvement. Il y a un point de départ, un point d'arrivée, et un milieu qu'il faut bien articuler. C'est ça l'idée donc de ce chapitre. Introduction historique. La liberté, eh bien figurez-vous que le mot liberté existait bien sûr par exemple en grec, eleutheria, c'est la liberté, mais la liberté c'est un concept purement politique. C'est-à-dire, vous êtes un homme libre ou vous êtes un esclave, et voilà, c'est la différence qu'il y a entre une grande partie de l'humanité et une petite partie de cette même humanité, c'est la liberté. Et donc, tous les hommes ne sont pas libres, c'est une évidence. C'est une évidence pour Aristote, c'est une évidence pour Platon, qui sont des grands penseurs. Tout homme, on ne peut pas dire que tout homme est libre. Et libre, c'est lui qui, politiquement, a un droit de vote dans une cité. Alors pourquoi est-ce qu'il a ce droit de vote? Ben parce que son père l'avait, parce que son grand-père l'avait, etc. Il y a de temps en temps des moyens d'échapper à l'esclavage, mais la grande majorité de l'humanité à cette époque est esclave. Et Hegel, évidemment, qui est un grand penseur de la liberté, qui fait même de la liberté, d'une certaine manière, la définition de l'homme, hein, eh bien Hegel a cette réflexion, dans l'Ancien Orient, un seul est libre, l'empereur de Chine. Tous les autres sont esclaves, plus ou moins, à différents degrés. Hein. Dans la Grèce antique, quelques-uns sont libres. Et dans le christianisme et dans l'Europe chrétienne, tous sont libres, au moins en principe. Et ils doivent le devenir de plus en plus. Hein. Mais Hegel, bien sûr, c'est 1770-1881, vous voyez que c'est bien après Aristote, bien après aussi l'essor du christianisme. Et il dit, voilà, hein, à cette époque-là, il est un de ceux avec Kant, Hegel, etc., cet idéalisme allemand, qui a mis la définition de l'homme dans la liberté. La liberté, c'est la définition de l'homme. L'homme, à la différence des animaux, à la différence des autres êtres sur Terre, eh bien, il est libre. C'est la grande différence. Alors que pour saint Thomas, la grande différence, c'est l'intelligence. Hein? Un être raisonnable. Voilà, donc c'est un concept politique. Alors, pour un peu illustrer cela, eh bien, j'ai mis quelques chiffres là par rapport au Brésil, par rapport à la Russie. Eh bien, on peut croire que, bon, l'esclavage, ça date d'il y a très longtemps. Ben, du temps du Christ, il y avait encore des esclaves, comme vous savez. Hein. Dans les paraboles, Jésus prend l'exemple de quelqu'un qui doit vendre sa femme et ses enfants comme esclave parce qu'il a des dettes. C'est comme ça que ça se passait. Hein. On vendait des personnes qui étaient libres pour payer des dettes parce que, voilà, on ne savait pas les payer en argent, donc on les payait en chair humaine, en main d'œuvre. Alors, le christianisme a déclaré que tout homme est libre. Bien, c'est une belle déclaration. Dans Saint Paul, nous avons là où est l'esprit, là est la liberté, mais il a fallu du temps pour arriver à ce que beaucoup de pays sur Terre actuellement se déclarent libres et l'homme se sente libre. Cette liberté chrétienne vient de l'histoire sainte, sans doute, hein, parce que le peuple d'Israël s'est constitué à partir de la libération de l'esclavage d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il en a été historiquement, en réalité, on ne sait pas trop bien, mais ce qu'on sait, c'est que quand même, le peuple d'Israël, c'est une bande d'esclaves qui s'échappent de leur servitude et qui vont errer dans le désert en ne sachant pas que faire. Ils sont libres, ils sont dans le désert, ils n'ont pas de terre. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On n'en sait trop rien. Alors il y a, disons, ça c'est le point de vue, disons, historique, je dirais, à ras des pâquerettes, même s'il n'y en a pas beaucoup dans le désert, mais voilà, c'est un peuple de nomades qui s'est échappé, des esclaves qui se sont enfuis au nom de la liberté. Parce que Dieu les libérait. Ah bon, Dieu les libère, ça veut dire quoi? Bon, c'est toute l'histoire du salut là qui commence à prendre forme. Alors, au nom de cette liberté que Dieu a proclamée au Sinaï, etc., le peuple d'Israël doit abandonner l'esclavage. À l'intérieur même du peuple d'Israël, on doit abandonner l'esclavage. En ce sens que malgré tout, comme je vous ai dit, ils étaient tous libres, mais quand on avait des dettes, on devait vendre quelqu'un ou devenir soi-même l'esclave pendant un certain temps. Et c'était admis, mais il y avait le grand jubilé. Alors ça, c'est un système social de redistribution des biens de terrain, bien sûr, quand ils auront la Terre Sainte, et des biens humains. Tous les 7 ans, on redistribue le terrain d'une certaine manière, enfin peu importe. Et tous les 50 ans, tous les esclaves doivent être libérés. Ils redeviennent libres. C'est le grand jubilé. Alors c'est magnifique, comme idée sociale, comme idée religieuse, etc. Mais c'était la théorie, parce que la pratique, si vous allez lire Jérémie 34-35, vous voyez que Jérémie, le prophète, doit un peu tempêter pour que les propriétaires, au bout des 50 ans, abandonnent vraiment leurs esclaves à leur propre liberté. C'est pas si facile que ça. Alors bien sûr, avec le christianisme, cette liberté sans doute a gagné du terrain. Mais au Brésil, par exemple, je vous ai mis quelques chiffres là, qui est quand même une population extrêmement chrétienne, puisque c'est le pays au monde où il y a, en chiffre absolu, le plus de baptisés. Évidemment, c'est un pays immense, beaucoup de population. Mais en chiffre absolu, c'est là qu'il y a le plus de baptisés. Mais d'où viennent-ils? Comme je vous l'écris là sur votre feuille, en 1798, il y a 400 000 hommes libres et 1 500 000 esclaves, la plupart des Africains qui viennent, qui ont traversé l'Atlantique, pour venir travailler au service des colons. Ça fait, comme vous voyez, un quart, trois quarts, et même un petit quart, un gros trois quarts. Mais il y a un mouvement abolitionniste, comme on dit, qui veut abolir la servitude, et progressivement, vous voyez, 1817, les chiffres commencent un petit peu à augmenter, oui. Pardon, l'abolitionnisme viendra plus tard. Ça ne fait qu'augmenter. Ce n'est que vers 1888 que la loi d'abolition de l'esclavage rend la liberté à ceux qui étaient encore esclaves à ce moment-là, en 1888, j'aurais pu mettre cette date-là. Donc, 1888, tous les esclaves sont libérés. La loi de l'abolition de la servitude donc est proclamée et on rend la liberté à ceux qui n'avaient pas encore été libérés progressivement après les périodes que je vous ai indiquées là. Ça c'est pour le Brésil, mais la Russie, ben, c'est à peu près la même chose. Hein. Vous avez les serfs de la couronne du tsar ont été libérés en 1858. Ils étaient 20 millions. Alors le servage n'est pas tout à fait l'esclavage, mais enfin quand même, hein, ça s'en rapproche d'une certaine manière. Il y avait 20 millions de serfs qui appartenaient au tsar en 1858. Et en 1861, tous les autres serfs qui appartenaient à d'autres nobles, eh bien, furent également affranchis. Mais donc, il n'y a pas tellement longtemps, hein, 150 ans, 160 ans. Et c'était inscrit dans les lois, et c'était normal. Alors bon, il y a des gens qui luttaient contre ces lois, mais les lois étaient là. Hein. Et donc, je poursuis avec la question de la révélation divine. Est-ce que c'est le peuple d'Israël qui a, par le fait de son histoire, commencé à déclarer cette liberté, et puis Jésus-Christ, évidemment, considérant que tout homme est libre, tout homme a en main sa propre vie, tout homme doit recevoir le respect et tout homme a la responsabilité de sa destinée personnelle, de sa destinée éternelle même. Hein. Et tout ça, il faut donc une grande maturation sociale et politique pour en arriver là. Mais c'est sans doute avec le christianisme que le principe de la liberté spirituelle est inoculé, je dirais, hein, au système d'organisation des sociétés humaines. Et progressivement, donc, en tout cas, c'est la lecture de Hegel. Hein, pour lui, c'est clair que la religion chrétienne est la religion de la liberté. Et que la définition de l'homme, c'est la liberté. Alors, cette liberté, donc, a fait ses progrès en Europe. Mais souvent, en France et en Angleterre, on a affirmé la liberté contre l'Église. Et en effet, l'Église, bon, ben, avait des privilèges, et puis considérait que ceci, cela, etc. Donc, les philosophes de la liberté en France, en Angleterre, étaient souvent, revendiquaient souvent la liberté contre l'Église qui, soi-disant, ne la promouvait pas comme il entendait. En Allemagne, eh bien non, les Allemands, avec l'Aufklärung, l'idéalisme, ont beaucoup plus reconnu la dette hein, de la liberté par rapport au christianisme. Ils considéraient que eh bien, cette philosophie de la liberté était un fruit du christianisme. Alors bien sûr, avec des contestations comme celle de Luther, etc. Mais quand même, les philosophes allemands reconnaissent que la racine de la liberté eh bien, vient du message évangélique. La conception de la liberté est extrêmement importante pour la conception du monde et de l'homme. Le concept de liberté est un concept central en philosophie. Et même si ça n'a pas l'air, ce concept de liberté a des répercussions, c'est assez évident, en morale, mais même en épistémologie, même en métaphysique, même en tout ce que vous voulez, toutes les branches de la philosophie, eh bien, sont un peu tributaires finalement de la conception de la liberté que se fait le philosophe. Qu'il se fasse une conception, disons, positive ou négative de la liberté, toute sa philosophie en est changée. Même la philosophie des sciences, même les choses qui paraissent les plus neutres et les plus logiques, hein, les plus implacables, eh bien, sont marquées au coin par la conception qu'on se fait de la liberté. Chez saint Thomas d'Aquin, par exemple, saint Thomas d'Aquin, donc c'est le grand docteur commun, comme on dit, ça veut dire le docteur qui donne la doctrine la plus générale, la plus admise, la plus commune à tous. Eh bien, pour lui, la liberté n'est pas un concept central de son anthropologie. il ne partage pas évidemment l'idée d'Aristote et de Platon, mais pour lui, comme je vous disais, c'est l'intelligence qui est la première caractéristique de l'homme. Et bien sûr, l'intelligence commande la volonté, et dans la volonté, ben, il y a le libre arbitre. Hein. Et le libre arbitre, ben, là, c'est ce qu'il entend par liberté, même si le libre arbitre n'est pas réduit à la liberté. Mais donc, la liberté fait au fond partie du fonctionnement de l'intelligence et de la volonté. Ce n'est qu'une sous-catégorie, hein, à l'intérieur de sa manière de concevoir l'homme. La liberté n'est pas au pinacle comme chez Hegel. Hein. C'est une faculté parmi d'autres et qui est finalement subordonnée à la faculté principale de l'homme qui est la raison, l'intelligence, la capacité de comprendre. Ça, c'est la raison théorique. Et la capacité de vouloir, ça, c'est la raison pratique. Parce que l'homme veut en fonction de ce qu'il a compris, hein, de ce qu'il a comme sens et valeur dans sa vie. Voilà, donc on trouve chez un auteur comme chez saint Thomas, qui est beaucoup prisé par l'éducation catholique, par exemple, hein, en tout cas des séminaristes, etc., et des philosophes chrétiens, eh bien, on trouve... Une réflexion très minimaliste sur la liberté. Hein, c'est pas énorme. Même chez Descartes, la pensée implique la liberté. La pensée, elle est libre. Donc, puisque l'homme est un roseau pensant, il pense et donc il est libre puisque sa pensée est libre. Mais c'est surtout avec Kant et avec Hegel et l'idéalisme allemand que la caractéristique de l'être humain devient de plus en plus la liberté comme telle. Alors bien sûr, avant, on était d'accord pour dire que l'être rationnel, hein, avait un but dans la vie et puis se dirigeait vers ce but, et qu'il n'était pas contraint de se diriger vers ce but, qu'il pouvait faire des erreurs, qu'il pouvait faire des fautes, des péchés, tout ça, mais la liberté n'était qu'un petit moment, hein, de ce cheminement que la raison reconnaissait, hein, que l'homme devait parcourir. L'accent thématisé de la liberté, c'est donc la modernité. Désormais, l'homme ne se définit plus par la vie qu'il a en commun avec les autres vivants, ni même par l'intelligence, mais par la liberté. Pourtant, cette liberté, elle est proclamée, mais elle est souvent méconnue. Alors, vous allez demander aux gens s'ils sont libres. Oui, je suis libre. Hein, mais d'ailleurs, au nom de la liberté, ceci, au nom de la liberté, cela, vous voulez m'imposer ça? Ben non, moi je suis libre, libre de mon corps, libre de ma vie, libre de tout ce qu'on veut. Bon, les gens affirment cette liberté, mais la question est que elle est souvent proclamée, revendiquée, mais est-ce qu'elle est vécue? Est-ce qu'elle est réfléchie? Est-ce qu'elle est pratiquée, la liberté? Eh bien, si on regarde à un niveau politique, il suffit de regarder une carte du monde pour se rendre compte que la liberté est vraiment démocratique, enfin, en tout cas, à l'occidental, hein, telle que nous la concevons, je prends évidemment ce concept de la liberté-là, eh bien, ne se trouve pas partout dans le monde, loin de là, hein. Loin de là. Donc à un niveau politique, même comme c'était inscrit dans les lois, hein, les lois qui devraient être équitables, ben on voit bien qu'elles sont souvent faites d'une certaine manière, qu'il y a une violence de la loi par rapport à beaucoup de classes d'êtres humains. Et donc cette liberté qui est proclamée, qui est réclamée par beaucoup de partis politiques, eh bien n'existe pas beaucoup dans les pays même démocratiques, hein. Mais encore moins dans des pays comme qui sont par exemple très islamisés, etc. À un niveau éthique, est-ce que l'homme est libre? Ben, quand on regarde comment l'homme se comporte, à un niveau personnel, on peut aussi se demander si souvent il n'est pas esclave, hein, esclave de beaucoup de choses, hein, esclave de lui-même, de ses caprices, de son égoïsme, de ses addictions, esclave du mal, esclave de... etc. Mais finalement, cet esclavage personnel, on y est tellement habitué que on n'a pas l'air d'y prêter attention. On réclame surtout la liberté lorsque l'autre vient m'empêcher d'être libre, ça veut dire peut-être d'être esclave de moi-même, quoi. Quand l'autre m'empêche de suivre mes passions, de suivre mes mauvaises inclinations, etc., on réclame la liberté. Mais justement, on n'est pas libre. Donc à un niveau aussi bien politique qu'éthique, souvent, dans la pratique, on n'est pas libre, même si on se prétend être libre. Beaucoup se prétendent avec beaucoup de force être libre, mais est-ce qu'ils le sont vraiment ? Souvent, la liberté est un slogan, un emblème. C'est le nom d'un parti politique, c'est le nom d'un programme de je ne sais pas quoi. Mais une réflexion approfondie sur la liberté paraît souvent suspect. Et en particulier, lorsque tous ces gens qui réclament la liberté à un niveau politique, quand on les interroge sur leur anthropologie ou sur leur épistémologie, souvent ils sont déterministes. Ils vont dire « Ah non, non, moi je ne suis pas libre, c'est mon cerveau qui a des neurones qui machin chouette, et puis on est soumis à ça, à ces neurones, c'est les neurosciences qui me commandent, enfin qui explique comment finalement je ne suis pas libre. Ah non, les neurosciences disent que je ne suis pas libre, mais dans la rue, je revendique la liberté, bien sûr. Ça, on ne va pas dire je ne revendique rien, puisque mes neurosciences m'ont dit que... Non, il y a cette espèce de contradiction que beaucoup vivent, et qui disent, oui, c'est ça, l'homme est un animal comme les autres, un peu plus évolué, avec un cerveau qui se lat, etc. Et d'ailleurs, Freud l'a bien dit, et Marx aussi, et Nietzsche aussi, et tous ces philosophes du soupçon, qui soupçonnent la vraie liberté de l'homme, on y croit, mais en même temps, on va revendiquer la liberté, comme quelque chose que les autres nous empêchent d'exercer. Mais quand on se demande comment on va l'exercer, tout seul dans sa chambre, on lit un livre de changeux et on dit, il y a quand même raison de dire que ce sont les neurones qui me commandent et que j'en peux rien de faire ceci, cela, et je suis l'hérédité, et puis voilà. Donc là, on renonce à la liberté tout à coup. L'homme est un être de désir, de passion, de déterminisme, qui est souvent en contradiction avec lui-même par rapport à la liberté. Il dit une chose d'un côté, il fait le contraire de l'autre, ou inversement. Mais est-ce que ça n'appartient pas à la liberté même, cette espèce de contradiction, cette espèce de difficulté à être simplement libre? Je suis libre et je m'exerce librement à faire ce que je veux faire. Est-ce que ça n'appartient pas, au fond, d'une certaine manière, ça c'est l'hypothèse qui est mise là dans deux approches de la liberté, la première approche, la seconde approche, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intrinsèquement naturel à la réflexion sur la liberté d'être déchiré, partagé entre une conception où on voudrait être plus libre, mais de fait on ne l'est pas et on n'a pas trop envie de l'être. Et on n'a pas trop envie d'y réfléchir et pas trop envie de se donner les moyens d'être libre. Parce que parfois vous savez très bien ce que vous pourriez faire pour vous débarrasser de tel ou tel servitude dans votre vie, mais vous n'avez pas trop envie. Je suis libre de ne pas avoir envie de me libérer. Oui, bien sûr, ça c'est votre liberté, mais c'est une liberté en contradiction avec elle-même, que l'on réclame. Et on réclame cette contradiction d'une certaine manière. Est-ce que c'est normal? Donc autant c'est un emblème dont on se prévaut dans toutes sortes de circonstances, autant lorsque, face à soi-même, on veut assumer la responsabilité de sa liberté, on veut la pousser jusqu'au bout, être libre à ce qu'on pense vraiment qui est bien, etc., on est assez faible et même tout à fait consentant à faire le contraire. On réclame la liberté comme ce qu'on n'a pas, comme ce qu'on n'est pas. On hésite davantage à s'affirmer libre et à répondre responsablement de cette liberté face à la cohérence de sa propre vie. C'est ça que la vie de la liberté, finalement, se trouve souvent un peu chaotique. Hein, on est libre à certains moments, pas à d'autres, on change de conception, on change de, selon les situations, etc. C'est pourquoi, soit la liberté est souvent comprise de manière très sommaire, comme étant l'équivalent du libre arbitre. Je suis libre puisque maintenant je vais faire ce que je veux. Hein? Maintenant je vais faire ce que je veux. Je prends ma montre ou je ne la prends pas. Vous voyez, je suis libre. Hein? Je prends ma montre ou je ne la prends pas. Je vais la prendre ou pas la prendre. Eh ben, c'est pas vous qui allez décider, c'est moi. Eh ben, voilà. Mais est-ce que c'est ça la liberté? Oui, c'est un mécanisme de la liberté, le libre arbitre. Mais c'est loin d'être toute la liberté. Ce libre arbitre, souvent, eh bien, il est mis en avant comme la preuve de la liberté. Mais il n'est absolument pas la preuve de, d'une vraie liberté. Hein. C'est une manière très sommaire et très, très maigrelotte hein, de définir la liberté. Il faut articuler la liberté. Ce geste, évidemment, oui, qui est libre, hein, et qui n'est pas déterminé, mais avec tous les autres de ma vie. Aujourd'hui, demain, hier, etc., articuler tous ces actes du libre arbitre dans une conception plus ample de la liberté, plus valable, hein, plus puissante, que simplement dire, eh ben, nanana, je vais faire ce que hein, vous n'allez pas me forcer à faire, etc. Bon, c'est pas suffisant comme définition de la liberté. Dans la liberté, il y a aussi la question de la culpabilité, de la responsabilité. Alors, on ressent souvent qu'on est libre, ou lorsqu'on était libre, lorsqu'on vient de faire une gaffe, hein, qu'on ne parvient plus à réparer, lorsqu'on se sent coupable d'avoir fait cette erreur, cette gaffe, alors tout à coup, on se sent coupable, on sent qu'on avait une responsabilité, qu'on n'a pas vraiment... mise en face de ses yeux et mis en œuvre. Mais la liberté pourrait aussi être le lieu d'une espérance. Une espérance. Bien sûr, la liberté est faillible. Hein? Bien sûr, on n'est pas infaillible, d'accord? Mais quand même, il y a peut-être l'espérance d'une liberté plus grande. Saint Thomas d'Aquin a dit quelque part, hein, l'homme est faillible, donc parfois il défaille. Ça, c'est vraiment la tautologie parfaite. Hein. L'homme est faillible, mais parfois il défaille. Oui, mais attention, parce qu'existentiellement, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Dire que je suis immortel, ça, je veux bien le dire, mais dire que maintenant il faut mourir, non, ça pas. Hein. C'est un peu la même chose. Hein. Dire que je suis faillible, bon, je le reconnais. Mais reconnaître la faille que je viens de montrer, ça, je n'ai pas envie. Hein. Donc, il y a un manque de réalisme, de concrétude hein, dans tout ça. Deux approches de la liberté. Ici, donc, le Père Chapelle, que je continue à suivre, oppose un peu, de manière polaire, comme ça, deux conceptions de la liberté. Une conception qui est peut-être plus celle de Saint Thomas d'Aquin, du Moyen-Âge, une conception réaliste, même si elle est renouvelée, hein. Et une conception, la première approche, qui est positive, qui est réaliste. Et qui dit ceci, l'homme est libre, il a une faculté qui est la liberté, il la reçoit parce qu'il est homme, et il l'exerce. Et cette liberté, elle est en lui, elle s'enracine dans son être d'homme, dans sa définition d'homme. Je suis libre parce que je suis un homme, simplement, hein, parce que je suis un être humain, je suis libre. Donc il n'y a pas de problème, je suis libre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cette liberté? Cette liberté est une aspiration, une énergie, le désir d'aller vers quelque chose. Et ce quelque chose, il est aussi inscrit en moi. Le but même de l'être humain est inscrit dans l'être humain naturellement. C'est son entéléchie, comme disait Aristote, c'est son but. Voilà. Le but de l'être humain est inscrit en lui. Et la liberté, c'est le point de départ de ce chemin qui va lui faire atteindre son but d'être un homme parfait, rationnellement, moralement, etc. Le plus parfait possible. Mais la liberté, elle est donnée et elle est bonne. Et il suffit, entre guillemets, d'y être fidèle pour avancer sur ce chemin et rejoindre de plus en plus sa perfection naturelle. Sa perfection naturelle. Tout être est appelé à un but qui est inscrit en lui, cette entéléchie, hein, ce but final. Tout être est appelé à rejoindre ce but, et bien il le fait grâce à cette liberté qui, au point de départ, et bien, elle est bonne, elle est là, voilà, elle est capable de réaliser ce qui lui est proposé, ce qu'elle a envie de faire. La liberté est donnée à l'homme comme une qualité, comme une détermination. Voilà, il est comme ça. Hein. Ça vous est donné. C'est un cadeau qui vous est fait, une qualité qui vous est donnée, et que vous devez, que vous pouvez en tout cas exploiter dans le sens d'atteindre votre but. Et ici, la détermination est considérée comme une perfection. La seconde approche de la liberté, elle est presque inverse. La liberté, c'est ce que je n'ai pas. L'être humain est libre, ça veut dire l'être humain voudrait être libre, mais il doit se libérer. Hein. L'être humain se définit non pas par un but qu'il doit atteindre, mais par un projet qu'il doit construire lui-même avec sa propre liberté. La liberté est une puissance. La liberté est un vide que je dois combler en faisant quelque chose, en inventant quelque chose. La liberté me permet de devenir moi-même, mais ce que je dois devenir, c'est inscrit nulle part. C'est moi qui vais le choisir. Il n'y a pas comme une image idéale là que je dois rejoindre. Non, c'est moi-même qui vais me donner mon but. Cette liberté ne se racine pas dans quelque chose que j'ai reçu, mais dans quelque chose qui me manque. Qui me manque. Je voudrais être libre. Je voudrais être... Et alors on s'invente un but, et chacun s'invente le sien, évidemment, puisque c'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Le projet est de se porter vers ce qu'on n'a pas, de faire ce qu'on n'est pas. Le projet est le fondement de ce mouvement. Donc le fondement se trouve au bout, pas au point de départ. Ce n'est pas en m'appuyant sur ma liberté que je vais réaliser ma liberté, c'est en courant après, alors qu'elle est loin et qu'elle m'échappe toujours. L'homme ici n'a pas de définition. Vous voyez que c'est un petit peu l'existentialisme de Sartre, par exemple, mais c'est aussi des définitions qui peuvent convenir pour Hegel, pour Marx, pour etc. Enfin, il y a différents philosophes qui vont dans ce sens-là. Qu'est-ce que c'est la définition de l'homme? Pour Sartre, qu'est-ce que c'est l'essence de l'homme, la définition de l'homme? Eh bien, il a une belle phrase qui résume bien ça. L'essence de l'homme, c'est de ne pas en avoir. La définition de l'homme, c'est qu'il n'a pas de définition. C'est lui qui va se définir par sa liberté. Mais une liberté qui, au point de départ, ne sait pas ce qu'elle doit faire et ne veut pas le savoir parce qu'elle va l'inventer toute seule. Toute seule. Vous ne devez pas me dire ce que je dois faire. Même ma nature, même mon créateur, tout ça, si on croit qu'il y a un créateur, il n'a pas le droit de me dire ce que je dois être, ce que je veux être, puisque je suis libre. La liberté, c'est de partir d'un espèce de vide, d'aspiration, de négativité, hein, la négativité de Hegel, bien sûr, pour aller vers eh bien, quelque chose qu'on va inventer. Et ça va être quoi? Eh bien, surtout, ne me dis pas ce que ça doit être. Est-ce que c'est le bien? Est-ce que c'est le mal? Est-ce que c'est la science? Est-ce que c'est... Ne vous mêlez pas de ça. Chacun a son but. Il doit s'inventer. Et plus ce but est personnel, plus ce but est inventé comme à partir de rien, plus, soi-disant, on est libre et on a réalisé sa liberté. L'essence de l'homme, c'est de ne pas en avoir. Je ne suis pas homme, je me fais homme, librement. Il n'y a pas une définition préalable. Je me fais librement homme, je n'ai pas d'humanité. Ou je n'ai d'humanité que dans la mesure où je l'ai construite, moi-même. Ne mérite le nom d'homme que celui qui s'est arraché à son manque pour devenir homme. Celui qui s'est arraché à sa servitude, à son manque, pour devenir homme. La dignité de l'homme ne réside pas dans quelque chose qui lui est donné, mais dans quelque chose qu'il fait. Et si vous ne faites rien, vous n'avez pas le droit à être vraiment considéré comme un être humain. Parce que vous faites rien, ou vous ne choisissez pas, ou vous allez laisser balloter par des idées qui viennent d'ailleurs. C'est vous, hein, existentiellement, qui devait inventer votre définition. Cette seconde approche est évidemment assez à la mode, surtout avec des gens comme Nietzsche. Hein. Alors Nietzsche a le bonheur et le malheur d'être un écrivain extraordinaire. Hein. Et donc quand on lit Nietzsche, on a l'impression que c'est tellement bien écrit que c'est vrai. Quoi, hein. Mais évidemment, lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte quand même qu'il y a des options extrêmement fortes chez lui. Et que parfois, on accepte sans avoir bien réfléchi à ce qu'elle implique. Dans cette vision, la détermination, hein, je vous disais pour saint Thomas d'Aquin, la détermination, c'est une perfection qui se déploie, hein, c'est une graine qui se déploie. Eh bien, au contraire, dans cette vision-ci, toute détermination est une négation. Toute détermination m'empêche d'être ce que je voudrais être. Je suis belge, c'est une détermination, n'est-ce pas? Ben non, ça m'empêche d'être américain quand même. Hein. C'est quand même dommage d'être belge. Mais si j'étais américain, je dirais la même chose, d'autre chose. Hein. Donc toute détermination de l'homme qui lui est donnée comme comme quelque chose dont il ne peut pas se débarrasser, ben c'est embêtant. Hein. Toute détermination est une négation. Je suis homme et pas femme, bon ben c'est quand même embêtant, hein, mais les deux se disent ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on n'en sait rien, il faut inventer. Il faut inventer. Voilà, toute détermination est négation. En fait, c'est une phrase de Spinoza. Hein. C'est une phrase de Spinoza qui a reprise, ben, qui pour lui évidemment est beaucoup plus métaphysique, mais qui a été reprise par Hegel et puis à un niveau beaucoup plus existentiel par Sartre, des gens comme ça. Toute détermination est une perfection, pour saint Thomas d'Aquin. Hein. Voilà, un chat, ben, il est un chat, il est déterminé à être chat. Ah ben c'est magnifique, hein. C'est magnifique, il est un chat, il est un vrai chat, un beau chat. Mais alors l'autre dira, ben, il n'est qu'un chat. Mais enfin, s'il était un chien, il serait quand même mieux, non? Ah ben non, mais il n'est qu'un chat, c'est vraiment une détermination, c'est une limite, c'est une négation de tout le reste. Hein. Donc il suffit d'être quelque chose pour ne plus être rien de tout ce qui n'est pas cette détermination. Ça, c'est quand même dommage. Hein, bon. Au lieu de se dire, ben, je suis un chat ou je suis un homme, eh ben, c'est merveilleux d'être un homme. Et le reste, ben, le reste, chacun a sa perfection, sa détermination. Hein, et là-dedans, il y a une harmonie peut-être. Mais voilà, il faudrait se réjouir d'être ce qu'on est. Ben non, il faut au contraire se désoler de n'être que ce qu'on est. Et chercher à être ce qu'on veut être. Alors, peut-on concilier ces deux approches? C'est ce que le Père Chapelle veut essayer de faire, concilier ces deux approches, en disant, au fond, eh ben, il y a du vrai dans les deux, hein, il y a du vrai dans les deux, mais il faut articuler les deux. Il faut articuler les deux. Il part d'une définition qui est... La liberté est autodétermination de soi par soi. La liberté est autodétermination de soi par soi. Alors là-dedans, il y a quand même le premier soi. Hein? Autodétermination. Il y a un premier soi qui est là et qui va déterminer un second soi. Donc détermination de soi, par soi, donc moi je suis ici, et il y a un autre soi, moi, vers lequel je vais. Mais il y a quand même un premier qui est là. Hein? Et c'est le premier qui permet de construire ou de façonner le second. Mais on va le façonner non pas en devenant chien parce qu'on était chat, non, mais en devenant vraiment ce qu'on est, au point de départ, de plus en plus profondément. Donc la liberté comme détermination de soi par soi. Alors, je crois qu'il y a une belle manière de comprendre cela à partir du titre d'un livre de Ricoeur qui dit « Soi-même comme un autre ». Soi-même comme un autre. Ricoeur, dans ce livre, eh bien, explique que pour être soi-même, soi-même comme un autre, pour être soi-même, il faut se connaître comme de l'extérieur. Il faut se connaître comme de l'extérieur, comme si on était un autre. Et un autre qu'on fait soi. Donc on se regarde, hein, je dirais, dans la glace et on dit ah, tiens, ben, j'ai un nez comme ça, j'ai telle faculté, bon, etc. On se découvre objectivement comme si on était un objet, mais bien sûr c'est moi qui me découvre. Et lorsqu'on c'est vrai, on se découvre de plus en plus profondément dans cette altérité, on a de plus en plus l'occasion de s'approprier cette altérité, hein, et de la faire vivre subjectivement. Non pas de la rejeter, peut-être, oui, quand même, de la modifier, de l'émonder, de la corriger, je ne sais pas quoi, mais regarder ces déterminations qui sont en nous-mêmes, objectivement, les accepter parce qu'elles sont là de toute façon, hein, mais peut-être les travailler. Et les travailler de telle manière qu'on devienne un soi davantage subjectif, hein, que l'autre... que je suis objectivement pour les autres, mais aussi pour moi-même. Donc voilà, travailler son soi. Hein. Quitte, dit Ricoeur, et là c'est là une belle formule, je trouve, quitte à surdéterminer les déterminations reçues. Quitte à surdéterminer les déterminations reçues. Alors ça veut dire quoi surdéterminer? Ça veut dire prendre cette détermination, mais lui donner une forme que l'on a choisi et qu'on surdétermine. Alors quoi par exemple? Bon, je suis un bon sportif, hein, je peux avec mon corps faire toutes sortes de choses intéressantes. Bon, mais je vais surdéterminer en choisissant un sport. Alors je choisis un sport et pas les autres. Bon, là je me limite. Mais quand même la détermination première, c'est que j'ai un corps apte à faire du sport. Mais je vais choisir de surdéterminer cette détermination. Alors, je suis libre ou je ne suis pas libre? Ben, j'étais libre d'avoir choisi le football ou le tennis, mais je n'étais pas libre d'avoir reçu un corps qui est capable de faire du sport. Là, je l'ai accepté. Celui qui a un corps qui n'est pas capable de faire du sport, il doit faire autre chose. Quoi? Ben, il a sans doute d'autres qualités, d'autres déterminations, mais qu'il doit surdéterminer à son tour. Donc il n'y a personne qui simplement suit ces déterminations. Les déterminations sont trop vagues. Elles sont quand même quelque chose d'important, quelque chose qui m'indique un chemin, mais ce chemin, je vais le surdéterminer. Donc la liberté comme autodétermination de soi par soi, comme surdétermination de ses propres déterminations reçues. Et donc il y a là un mouvement à partir d'une base qui m'est donnée, qui peut sembler statique. Il y a un mouvement de moi vers, que je considère comme un autre et que je surdétermine pour devenir un vrai soi subjectif et libre. Libre d'avoir choisi cela et de l'avoir exécuté aussi. Hein? C'est pas de choisir. Il y a un point de départ qui est donné, il y a un mouvement et puis il y a un repos. Quand on a atteint son but, eh bien, voilà, on constate qu'on a atteint son but, on est content d'avoir atteint son but. Hein. Et ça aussi, ça fait partie de ce mouvement de la liberté. C'est articuler, hein, sa liberté que de se rendre compte qu'il y a un point de départ, un milieu et un point d'arrivée. Et que tout cela, c'est la liberté. La liberté, ce n'est pas que le moment où on choisit une chose qu'on aurait pu faire ou pas faire. Ça, c'est beaucoup trop simple, beaucoup trop inarticulé. Alors, rapidement, je prends la genèse de l'acte libre, mais je vous dis que je reprendrai cela, hein, beaucoup plus à fond la prochaine fois, parce que je crois que c'est vraiment une intuition extrêmement forte que je vais d'abord vous suggérer rapidement, et je reprendrai cela plus à fond la prochaine fois. Alors, la genèse de l'acte libre. La genèse de l'acte libre. Comment fait-on quelque chose librement? Comment arrive-t-on à réaliser quelque chose en pleine liberté. Eh bien, au point de départ, il y a, c'est indiqué là, une intention. Il y a une intention. J'ai l'intention de devenir un footballeur, j'ai l'intention de, hein, d'apprendre ceci ou cela. Il y a souvent des exemples du côté de l'apprentissage, évidemment. Hein. L'intention. Il faut avoir une intention. Mais cette intention, elle ne vient pas non plus de nulle part. Elle m'est présentée. Donc le petit gamin qui a un corps, voilà, hein, bien sportif, eh ben, il y a un club de ceci là-bas, un club de cela là-bas, mais son papa, lui, il a fait plutôt du hockey, et puis sa maman, elle faisait je ne sais pas quoi. Donc il y a des sollicitations autour de lui qui lui sont présentées. Il n'invente pas le football, il n'invente pas la natation, non, il y a déjà plein de trucs autour de lui qui existent. Mais lui va choisir ou avoir l'intention, hein, de faire ceci plutôt que cela. Voilà, donc il y a tout un milieu, tout un monde, et c'est toute une conception du monde en fait, hein. Il y a tout un monde qui nous sollicite. Le monde est là pour nous mettre en appétit, hein, de choses à faire. L'enfant naît, il est là, tout à coup, il arrive dans un pays, dans une famille, dans une époque, etc. Et il y a une série de choses autour de lui, pas toutes, parce qu'un enfant qui naît de l'autre côté du globe a d'autres sollicitations, mais les sollicitations sont là, et il a envie tout à coup, pourquoi ? Ben, on n'en sait rien. Hein. Quand on voit des frères et sœurs, parfois, là, ils sont très différents, pourtant ils ont vécu dans le même milieu. Ils ont eu les mêmes sollicitations à peu près, hein. Eh bien, l'un a choisi une chose et l'autre a choisi une autre, parfois très différente. Hein. Voilà. Il y a une sollicitation. Le monde est attrayant. Le monde offre une série de possibilités. Et moi, je suis déterminé, bien sûr, parce que il y a des choses que je peux faire, il y a des choses qui me sont impossibles, évidemment. Parmi celles que je peux faire et qui sont nombreuses, je ne dois pas être trop pessimiste, hein. Ben, je dois quand même en choisir. Parmi celles que je ne peux pas faire, ben, je dois renoncer. Ah oui, c'est celle-là que je voulais faire. Ben non, voilà, je ne veux pas faire ça. Je peux faire 10 choses là-bas, mais pas ces 10 choses-ci. Alors, plutôt que de se lamenter de ne pas pouvoir faire ces 10 choses-ci, ben, choisissons une ici. Mais une, pas 10, parce que une ou deux. Parce qu'on ne sait pas faire 10 à la fois non plus. Donc voilà, il y a un ensemble de sollicitations du monde qui éveille des intentions chez la personne. C'est le premier temps. Alors, l'intention ne suffit pas. Hein. Moi, je veux devenir comme Ronaldo, c'est très bien. Hein. Il y a beaucoup de petits garçons qui veulent devenir comme Ronaldo. Il faut choisir. Il faut choisir un club de football, alors. Choisir un club, bon, ça va, on a choisi. Il faut choisir le bon. Il faut réfléchir. Là, il y a l'exercice du libre-arbitre. C'est là que se trouve le libre arbitre. Dans la sollicitation, tout azimut, ben le libre arbitre, il est plutôt à l'arrêt, hein, il est plutôt à se demander quoi. Mais le libre arbitre, à un moment donné, se décide et il choisit ceci plutôt que cela. Là, nous avons le moment du libre arbitre, qui est déjà évidemment beaucoup plus important de savoir si je prends ou non ma montre en main. Mais il y a quelque chose de l'ordre du libre arbitre avec une délibération. Qu'on fait seul, mais qu'on fait aussi avec les autres. Les parents disent, ouais, le club de football, c'est trop loin, la natation, c'est plus près, etc. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui jouent. On choisit. Bon, donc le chemin vers Ronaldo, déjà, a fait un pas de plus. J'ai choisi mon club de football. Bon, maintenant, il faut aller aux entraînements. Oui, mais ça, c'est fatigant, hein. Moi, je croyais qu'en 3 entraînements, je deviendrais Ronaldo. Ben non. Il en faut plus. Oh là là. Bon, ça, c'est la maîtrise. C'est le 3e temps. Maintenant, il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir à ce choix. Il faut le vouloir. Il faut vouloir avancer sur ce chemin. Ah oui, mais je ne suis plus libre. Je suis esclave, hein, de l'entraîneur. Ah ben oui, oui, ben... Devenir libre du ballon au bout de son pied, c'est passer par un moment de servitude par rapport à l'entraîneur et par rapport aux entraînements et par rapport à toutes sortes de choses. C'est le moment peineux, hein, c'est le moment onéreux de l'acte de liberté. Il ne suffit pas d'avoir des belles intentions, il faut choisir, mais quand on a choisi, on est encore loin du but, hein, très loin du but. Il faut donc mettre en place non seulement le but, mais les moyens, et prendre ces moyens, et s'y tenir. Et là, eh bien, bon, ben parfois, on est fatigué, hein. On est fatigué. On se dit après 2 ans, 3 ans, tiens, bof, le hockey finalement ça a l'air plus facile, hein, ou le tennis ça a l'air plus facile. Donc moi je vais abandonner le football, je vais passer au tennis. Alors les parents disent, ah non, non, pas encore ça, hein, bon, il faut se tenir. Mais non, tu ne vas pas me forcer, je suis libre, bon. Alors évidemment, si on a fait 1 an dans 10 sports, ben on est nul dans les 10 sports sans doute, hein. Celui qui a fait 10 ans dans un sport, il est sans doute meilleur. Hein? Mais la question est la maîtrise. La maîtrise, ça veut dire la servitude, paradoxalement, hein? La servitude par rapport aux moyens pour les maîtriser. Alors vous voyez un joueur de football ou un violoniste, vous dites, mais enfin, il fait ça tout naturellement. Hein? Mmh. Il prend son ballon, il prend son violon, et puis c'est parti. Hein? Lui, il a du talent. Hein? Ah, il a du talent, hein? Oui, il y a peut-être 1000 heures de travail derrière. Hein. Voilà, donc ça c'est la maîtrise. C'est la maîtrise. Mais alors, justement, quand on a réussi à maîtriser, hein, les moyens, alors on commence à approcher du but. On commence à approcher du but qui était pourtant déjà dans le premier temps. Dans le premier temps, il y avait le but. Et il fallait qu'il soit là, il fallait qu'il soit attirant. On a choisi, ben là on commence à maîtriser les moyens, donc on prend, de l'avancement par rapport à ce but. Et un beau jour, ben c'est jamais un beau jour une fois pour toutes évidemment, mais un beau jour quand même on se dit, tiens, hein, je suis devenu un footballeur, ou je suis devenu un musicien, hein, et on est reconnu comme tel, et on a la jouissance, la fruitio, c'est ça le mot, hein, fruitio. La fruitio, c'est fruit, c'est jouir, c'est retirer le fruit, c'est goûter, hein, goûter le résultat. Eh bien, on peut user de ce talent qu'on a cultivé et on peut en le goûter. C'est comme un bon fruit, hein, que l'on est parvenu à savourer, mais à travers ces différentes étapes, hein, du choix et puis de... des moyens qu'on a mis en œuvre, et voilà, alors on est heureux, on est content. Et ça, c'est les 4 moments de la liberté, articulés. Et l'idée, c'est que, quand est-ce qu'on est libre? Au moment où on choisit son club de football? Oui, oui,
mais pas tout à fait.
Hein. Au moment où on trinque là, à l'entraînement? Ben oui, mais pas tout à fait. Hein. C'est à la fin, quand on est... oui, oui, mais enfin, les autres moments aussi étaient des expressions de la liberté, de la volonté, hein, d'exécuter un projet librement choisi. Donc les 4 moments sont vraiment des moments libres. Le 4e a l'air le plus beau. Oui, mais parfois c'est l'échec aussi. Hein. Parfois on a tout mis en œuvre et ben, ça ne marche pas. Hein. Au moment où je suis sélectionné pour le club... pour l'équipe nationale, je me casse la jambe et puis voilà. C'est foutu, hein. Toutes mes années d'entraînement, plus jamais je pourrai jouer au football. C'est l'échec. C'est la contingence. Donc la réussite, c'est bien sûr le fruit de l'effort. Hein. Mais c'est aussi quelque chose qui est fragile, qui est précaire, qui est contingent, qui est gratuit. Parce que finalement, celui qui a réussi, il a aussi eu de la chance. Alors bien sûr, il a aussi travaillé, mais il a aussi eu de la chance. Donc, la réussite est toujours aussi comme un cadeau qui vient après tout ça. Un cadeau qu'on a parfois payé cher, mais quand même un cadeau parce que ça aurait pu échapper, hein, à la dernière minute. On ne sait jamais. Et être libre, c'est assumer dès le point de départ le risque d'échouer. Quand on se met à faire un effort pour atteindre quelque chose, ben, on n'est pas si sûr que ça qu'on va y arriver. Hein. Et plus on approche, plus on est content, mais c'est jusqu'à la dernière minute que, eh bien, qu'on attend la joie de la réussite et que peut-être on craint, hein, qu'on craint la possibilité de l'échec. Alors il ne faut peut-être pas tout le temps avoir l'échec en tête, hein, certains ont toujours l'échec en tête, mais d'autres croient un peu trop vite qu'ils ont réussi aussi. Hein. Bon, il faut trouver le juste milieu, et donc voilà, être libre, c'est à chaque moment, hein, de ces quatre temps, à chaque moment, remplir ces moments, et bien finalement de ce que Albert Chappelle, à la suite de Saint-Ignace de Loyola, appelle vraiment la liberté. La liberté, ce n'est ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième temps, c'est cette dialectique des quatre temps qui d'ailleurs, et ça j'en parlerai la prochaine fois, ne sont pas nécessairement strictement chronologiques. Hein. Il peut y avoir un peu des chevauchements et des recoupements et puis des redoublements, etc. On en parlera la prochaine fois. Mais voilà donc cette esquisse que je vais reprendre parce qu'elle est extrêmement riche et je vais vous montrer notamment le rapport avec les exercices spirituels de Saint-Ignace. Ceux qui connaissent un peu cette spiritualité ont déjà peut-être vu, hein, quels sont les rapprochements possibles. Mais voilà, donc ça c'est l'inspiration. Alors j'arrête ici le cours, donc l'enregistrement se termine.